Bon, on va démarrer cette plongée au cœur de l'économie avec un chiffre. Un chiffre qui, honnêtement, sur le papier, ressemble à un miracle absolu pour le Maroc.
Ouais, un chiffre qui n'a pas manqué de faire réagir, c'est sûr.
Bah oui, parce qu'on parle d'un taux de chômage national qui est tombé à 10,8% au premier trimestre 2026. C'est le genre de statistique qui fait normalement sabler le champagne dans les ministères, quoi.
C'est un chiffre qu'on a envie d'afficher en très grand sur des panneaux publicitaires, c'est clair.
Exactement. Sauf que bon, on a voulu décortiquer tout ça. Et en lisant de près les publications de l'ODJ Média, qui ont vraiment analysé cette actualité, on découvre que la réalité, elle est beaucoup plus complexe.
Oui, il y a toute une mécanique derrière qui est fascinante, en fait.
Voilà, c'est ça. On se rend compte que des centaines de milliers de personnes n'ont pas soudainement trouvé un boulot magiquement. Elles ont juste été, disons, effacées du principal radar statistique.
Alors attendez, il faut faire attention avec le mot « effacer ». On n'est pas dans un complot ou une manipulation politique pour embellir la vitrine. Hein.
D'accord, donc c'est pas un tour de passe-passe.
Non, pas du tout. Ce qu'on observe, c'est une mise en conformité qui est extrêmement stricte. En fait, le Haut Commissariat au Plan, le fameux HCP, a tout simplement jeté son ancienne méthode de calcul à la poubelle.
Ah ouais, carrément.
Oui, pour s'aligner sur les normes les plus récentes de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail. Donc la réalité sociale sur le terrain, elle n'a pas bougé d'un millimètre.
Mais la définition a changé.
Exactement. La définition même de ce qu'est un chômeur vient de subir un véritable séisme conceptuel.
Et c'est ça qui est dingue pour notre dossier du jour. L'ancienne enquête, l'enquête nationale sur l'emploi, l'ENE pour les intimes, elle a été remplacée par ce qu'ils appellent l'EMO 2026.
L'enquête sur la main-d'œuvre, oui.
Voilà. Et j'aime bien utiliser une analogie, en fait, celle du thermomètre. C'est-à-dire que changer de thermomètre, ça guérit absolument pas la fièvre.
Non, évidemment.
Mais par contre, ça donne une température vachement plus précise si on le place ailleurs. Et ce nouveau thermomètre, il nous dit qu'on a 1 253 000 personnes au chômage au sens strict. Mais ça veut dire quoi, ce terme strict? Parce que dans la vraie vie, on a un boulot où on n'en a pas, quoi.
Alors, votre analogie du thermomètre, elle est bien, mais elle a ses limites. Parce que là, le nouveau thermomètre, il refuse carrément de prendre la température de certains patients.
Ah, carrément! Comment ça?
Le chômage strict, selon cette nouvelle norme, il repose sur 3 conditions implacables. Et attention, elles doivent être remplies en même temps.
Simultanément, d'accord.
Voilà. La première, elle est logique. La personne ne doit avoir aucun emploi. Même pas une petite mission d'1 heure dans la semaine. Zéro.
D'accord, rien du tout.
La deuxième condition, c'est d'avoir effectué des démarches actives de recherche au cours des 4 dernières semaines.
Actives, c'est-à-dire envoyer des CV, ce genre de choses?
Oui, envoyer des CV, contacter des agences, passer des entretiens, faut prouver qu'on cherche. Et la troisième condition, c'est d'être disponible pour commencer à travailler dans les 2 semaines qui suivent, si jamais une opportunité se présente.
D'accord. Donc attendez, on va concrétiser ça pour bien comprendre. Imaginons un jeune, on va l'appeler Karim. Il a 24 ans, il est jeune diplômé à la Youn, ça fait 10 mois qu'il cherche un poste.
Très bon exemple.
Il a envoyé, je sais pas, des centaines de candidatures, il s'est pris mur sur mur. Et le mois dernier, il est complètement épuisé psychologiquement et il se dit « Bon, stop, je fais une pause, je regarde plus les annonces pendant quelques semaines. »
Ouais, le fameux découragement.
Voilà. S'il cherche pas activement pendant ces fameuses 4 semaines, le HCP considère que son chômage a disparu.
Statistiquement parlant, oui. Il sort du noyau dur du chômage strict.
C'est violent quand même.
C'est froid, oui. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique macroéconomique derrière ce choix. Le HCP, il ne nie pas l'existence de Karim, ni sa détresse financière d'ailleurs.
Heureusement.
Mais en termes d'économie pure, de politique monétaire, un individu qui a baissé les bras n'exerce plus aucune pression immédiate sur le marché du travail.
Ah, parce qu'il postule plus.
Exactement. Il ne concurrence plus les autres candidats et du coup, il ne tire plus les salaires vers le bas. Donc, les économistes, ils isolent ce taux de 10,8% pour mesurer uniquement cette pression immédiate.
Et notre Karim, il va où dans les tableaux Excel, du coup?
Il est déplacé dans une sorte de nouvelle salle d'attente statistique. Et ça, c'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre potentielle.
La main-d'œuvre potentielle? C'est hyper clinique comme terme pour décrire des gens qui sont juste découragés, en fait.
C'est le jargon technique, oui.
Et le vrai problème, c'est que si on s'arrête au gros titre du journal, avec ses fameux 10,8%, on occulte totalement Karim et tous les autres.
Totalement. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lire un seul chiffre.
Voilà. Le DJ Média l'explique super bien. Ils disent que le marché du travail marocain, aujourd'hui, il faut l'analyser un peu comme un carottage géologique. Avec 4 couches distinctes, il faut vraiment creuser une par une.
C'est une excellente façon de le visualiser. Le premier niveau de ce carottage, la couche de surface, qui est bien visible, c'est notre chômage strict à 10,8%.
Ok, la surface.
Ensuite, si on descend un petit peu plus profondément, on tombe sur le deuxième indicateur. Et là, on combine ce chômage strict avec ce qu'on appelle le sous-emploi. Et boum, le chiffre grimpe à 16,6%.
Alors attendez, le sous-emploi, concrètement, c'est les gens qui ont un boulot, mais qui crèvent d'envie de travailler plus, genre un temps partiel.
C'est ça, mais c'est pas juste une envie, hein. C'est une contrainte subie. C'est des personnes qui travaillent à mi-temps contre leur gré, ou alors des gens dont les revenus sont anormalement bas par rapport à leurs qualifications.
Donc, ils sont dans le marché, mais ils sont sous-exploités.
Voilà, le marché ne les utilise pas à leur pleine capacité. Et après, si on creuse vers la troisième couche de notre carottage, on ajoute notre fameuse main-d'œuvre potentielle.
La fameuse salle d'attente.
Exactement. Donc là, on ajoute ça au chômage strict. C'est là qu'on retrouve notre jeune Karim, le découragé. Et là, ce taux-là, il atteint 17,1%.
Et c'est vraiment là que ça devient hyper intéressant. Parce qu'il reste le fond du carottage. La quatrième couche, le quatrième niveau qu'on appelle le taux composite de sous-utilisation de la main-d'œuvre.
Un nom un peu à rallonge, mais crucial.
Mais qui prend absolument tout le monde, quoi. Les chômeurs stricts, les travailleurs à temps partiel subis, les découragés. Et ce chiffre-là, il culmine à 22,5% au niveau national.
C'est massif.
Bah oui, on passe de la belle vitrine des 10,8% à presque un quart de la population active qui n'est pas utilisée correctement par l'économie.
Et ce chiffre de 22,5%, c'est vraiment ça, le véritable thermomètre de la friction sociale.
Ouais, c'est le chiffre qui fait mal.
Et encore, faut aller au-delà de la simple moyenne nationale. Parce que l'enquête EAMO 2026, elle permet une granularité qui est assez inédite.
C'est-à-dire ?
Dans les détails par tranche d'âge, oui. Regardez les jeunes de 15 à 24 ans, par exemple. Chez eux, ce taux composite, il explose à 45,3%.
Quoi ? Presque la moitié des jeunes ?
Presque la moitié des jeunes sont sous-utilisés, oui. Et du côté des femmes, c'est un autre défi majeur. Le taux de participation globale au marché stagne à 17,5%.
17,5% seulement.
Seulement. Et ça, c'est extrêmement bas quand on compare aux hommes qui sont à 66,4%.
C'est un gouffre.
Un gouffre. Et la géographie joue aussi. Pour vous donner une idée, le chômage strict n'est que de 5,7% à Dakhla, tout au sud, alors qu'il grimpe à 20,3% à La Hayoun.
Mais je me pose une question. Pourquoi est-ce que ce niveau de détail n'apparaissait pas avant? L'ancien système, il était vraiment si mauvais que ça?
Non, on ne peut pas dire qu'il était mauvais. Il était juste conçu pour une économie qui était différente.
Une économie d'une autre époque, quoi.
C'est ça. L'ancien système, il avait beaucoup de mal à capter ce qu'on appelle les zones grises, surtout l'économie informelle et les nouvelles formes de travail. Et c'est là qu'intervient l'autre innovation majeure de cette enquête, l'adoption d'une nouvelle classification internationale, l'ICSO 18.
ICE 18. On dirait un peu un code de lancement de missile, votre truc. Ça veut dire quoi concrètement sur le terrain?
Alors, l'ICSE 18, ça change complètement la question de base qu'on pose aux travailleurs. Avant, on regardait surtout le statut juridique. Est-ce que vous êtes salarié avec un vrai contrat ou est-ce que vous êtes indépendant?
Ok, binaire.
Aujourd'hui, l'ICSE 18 regarde la notion de contrôle économique. Prenez l'exemple de Youssef. Youssef, il est chauffeur VTC ou alors il livre des repas pour une grande application mobile.
Le travailleur de plateforme classique, ouais.
Juridiquement parlant, il est auto-entrepreneur. Il n'a pas de patron direct, il n'a pas de contrat de travail classique. L'ancienne méthode l'aurait classé sans hésiter comme travailleur indépendant.
Ouais. Alors qu'en réalité, le pauvre, il décide ni de ses tarifs, ni du choix de ses clients. Et l'algorithme peut littéralement le déconnecter du jour au lendemain. Il n'a aucune vraie indépendance.
Précisément. Et c'est exactement ça que l'INSEE saison 18 permet de corriger. Ils ont créé une nouvelle catégorie qui s'appelle les non-salariés dépendants.
Ah, c'est malin ça.
Bah oui. Youssef possède peut-être sa propre voiture, mais il est économiquement totalement dépendant d'une seule entité qui dicte ses revenus. Et ça permet aux statisticiens de voir que derrière une création d'entreprise apparente, bah, il y a en fait un salariat très précaire sans aucun filet de sécurité.
Donc si on résume, le diagnostic il est d'une clarté redoutable. On a une radiographie parfaite de la situation. On voit que 22,5% de la main-d'œuvre est sous-utilisée, on a les jeunes et les femmes qui restent largement sur la touche, et on a une économie de plateforme qui précarise.
C'est le tableau clinique, oui.
Et si cette nouvelle grille de lecture, c'est le diagnostic, la question logique qui vient juste après, c'est quel est le remède? Comment est-ce que le Maroc compte absorber cet immense réservoir de personnes? Nos sources mentionnent une feuille de route très ambitieuse de la Banque mondiale pour l'horizon 2035.
Oui, la Banque mondiale a fait ses calculs. Leur projection, c'est qu'il faut créer 1,7 million d'emplois d'ici 2035.
1,7 million.
C'est le volume qui est nécessaire, selon eux. Pas seulement pour absorber les jeunes qui vont arriver sur le marché, mais surtout pour vider ce fameux réservoir de chômage latent et de sous-emploi qu'on vient juste de décrire.
1,7 million d'emplois. Honnêtement, je peux pas m'empêcher d'être un poil cynique là-dessus. C'est le genre de promesse très technocratique qu'on entend souvent. On peut pas juste imprimer des emplois depuis un bureau à Washington ou à Rabat. Il faut des mécanismes réels sur le terrain.
Vous avez raison d'être pragmatique. Et la Banque mondiale le sait, c'est pour ça qu'il propose quatre leviers précis. Le premier de ces leviers, c'est les petites et moyennes entreprises, les PME, et surtout leur accès au crédit.
Ouais, mais attendez, pourquoi est-ce qu'une PME marocaine embaucherait demain si elle ne le fait pas déjà aujourd'hui ?
Parce que le vrai goulot d'étranglement historique au Maroc, c'est le financement bancaire. Prenez une PME, aujourd'hui. L'entrepreneur veut acheter une nouvelle machine, disons, pour doubler sa production, ce qui lui permettrait d'embaucher 5 nouvelles personnes. Il va voir sa banque.
Et la banque lui dit non.
La banque va lui demander des garanties collatérales énormes. Souvent, elle exige des biens immobiliers, des terrains que l'entrepreneur ne possède pas forcément.
Le classique.
Résultat des courses, le crédit est refusé, la machine n'est jamais achetée et les 5 emplois ne sont jamais créés. Donc ce que préconise la Banque mondiale, c'est pas de distribuer de l'argent gratuit, hein. C'est vraiment de réformer l'architecture même du crédit.
Concrètement, ça donne quoi ?
Ça passerait par des fonds de garantie étatiques pour partager le risque avec les banques privées ou alors développer des évaluations de crédit basées sur les flux de trésorerie réels de l'entreprise plutôt que sur la valeur de son hangar.
D'accord, donc l'idée, c'est de débloquer le robinet du crédit pour que les PME puissent enfin prendre des risques. Ok. Le deuxième levier, c'est la productivité, ça on s'y attendait. Mais le troisième levier m'interpelle beaucoup plus, c'est l'inclusion.
Ah oui, un point essentiel.
Le rapport insiste lourdement sur l'inclusion des femmes. Et là, je me fais l'avocat du diable, mais on pourrait croire qu'il s'agisse juste d'une posture morale ou d'une politique de solidarité sociale un peu classique.
Et c'est l'erreur d'interprétation la plus fréquente, vraiment. L'inclusion n'est pas du tout abordée ici sous l'angle de la charité.
Ah bon ?
Non, c'est vu comme un impératif de productivité macroéconomique brute. Rappelez-vous notre taux de participation féminine de tout à l'heure, 17,5%. Imaginons Fatima. Elle vit dans une zone périurbaine, elle a des compétences, elle est qualifiée, mais elle cherche pas d'emploi.
Pourquoi ?
Parce qu'il n'y a tout simplement pas de solution de garde d'enfants abordable dans son quartier. Et en plus, le seul bus pour rejoindre la zone industrielle est connu pour ses retards chroniques et malheureusement des problèmes d'harcèlement.
Ce qui est une réalité pour beaucoup. Donc pour le HCP, avec sa nouvelle méthode, Fatima finit dans la case main-d'œuvre potentielle ou pire, totalement en dehors de la population active.
Exactement. Et la solution proposée par la Banque mondiale, ce n'est pas de lui verser une allocation chômage. C'est de construire une crèche dans son quartier et de sécuriser les lignes de bus.
Donc des infrastructures ?
Pas une dépense sociale. C'est un véritable outil d'infrastructure économique, au même titre qu'un pont ou une autoroute. C'est la courroie de transmission qui va permettre à Fatima de rentrer sur le marché du travail l'esprit tranquille.
D'être productive sans être rongée par le stress de la garde d'enfants, quoi.
C'est tout à fait ça. Et si on relie cela au contexte plus global du rapport, c'est ce qu'ils appellent une croissance qui embauche. Et ça nous amène au quatrième levier, l'État stratège.
L'État stratège, ça veut dire que l'État doit forcer cette cohérence ?
Doit exiger de savoir exactement combien d'emplois locaux et formels seront générés pour chaque million de dirhams qui sera investi.
D'accord, donc si l'État stratège fait vraiment son travail, si le crédit aux PME se débloque enfin, et si on arrête de voir l'inclusion comme de la charité, mais comme une arme de productivité, on devrait voir émerger des secteurs qui recrutent massivement.
En théorie, oui, tous les voyants seraient ouverts.
Mais justement, tout ça, ça reste de la belle théorie macroéconomique. Et ce qui est intéressant dans nos sources, c'est qu'elles mettent en lumière un exemple super concret. Si ce scénario d'une croissance tirée par la haute technologie est vraiment en marche, on devrait voir des entreprises investir sur le terrain en ce moment même. Et on a l'inauguration d'une usine par l'industriel suédois Trelleborg, qui est prévue le 9 juin dans la zone de Midpark, près de Casablanca.
Et ce n'est vraiment pas une coïncidence si cet exemple précis ressort dans les analyses. L'installation de Trelleborg, ça illustre parfaitement le passage de la théorie à la pratique dont on vient de parler.
On parle tout de même d'un bel investissement, non ?
Un investissement de 120 millions de dirhams. Et Trelleborg, c'est pas n'importe qui. C'est une entreprise historique, fondée en 1905, qui compte aujourd'hui plus de 15 000 employés à travers le monde. Et ce qui est crucial dans cet exemple, c'est vraiment leur spécialité.
Ouais, parce que c'est pas du textile ou de l'assemblage basique, quoi. Ils font dans les polymères techniques pour l'aéronautique.
Un domaine de pointe.
Complètement. Pour expliquer ça simplement à ceux qui nous écoutent, on parle de matériaux ultra spécialisés. C'est des plastiques et des caoutchoucs qui doivent être capables de résister à la pression à 30 000 pieds d'altitude ou d'absorber les vibrations extrêmes d'un moteur d'avion de ligne. C'est clair que c'est pas le genre de produit qu'on fabrique au fond de son garage.
Pas du tout. La technicité, c'est justement le point central de cette implantation. Alors, cette usine, elle promet de créer entre 150 et 200 emplois directs.
Ouais, alors attendez. Vous allez me dire que 200 emplois, c'est très bien. Mais on est quand même très, très loin des 1,7 million exigés par la Banque mondiale. C'est une goutte d'eau dans l'océan noir.
Mathématiquement parlant, oui, c'est une goutte d'eau. Mais stratégiquement, c'est une véritable onde de choc pour tout l'écosystème industriel marocain.
Pourquoi ça ?
Trelleborg, c'est le tout premier industriel aéronautique suédois à s'implanter au Maroc. Il faut savoir que l'industrie aéronautique, elle fonctionne par strates. Tout en haut, vous avez le constructeur final, comme Boeing ou Airbus, et juste en dessous, vous avez des fournisseurs de rang 1, de rang 2, et ainsi de suite.
Et le Maroc se situait où jusqu'à présent ?
Jusqu'à présent, la plateforme marocaine excellait surtout dans l'assemblage de sous-ensembles ou le câblage électrique. L'arrivée d'une expertise aussi pointue en chimie des matériaux, ça signifie que le Maroc monte sérieusement en gamme.
Ah, je vois. Le pays n'attire plus seulement parce que la main-d'œuvre y est moins chère, mais parce qu'il y a la compétence technique.
Exactement. Il attire pour sa capacité à intégrer et à produire de la très haute technologie.
Donc la logique, c'est que Boeing, par exemple, qui se fournit déjà en partie au Maroc, bah, ils n'auront plus besoin d'importer ces fameux systèmes d'étanchéité ou ces polymères depuis l'Europe ou l'Asie. Toute la chaîne d'approvisionnement se raccourcit et se concentre sur place.
C'est ça l'objectif. Et ça crée un effet d'attraction qui est monumental. Cela soulève une question hyper importante pour la prochaine décennie. Combien d'autres équipementiers mondiaux de haute technologie vont regarder ce que fait Trelleborg et se dire « Ah, l'écosystème marocain est devenu assez mature pour qu'on y installe nos propres usines ».
Un effet boule de neige, en fait.
C'est ce qu'on appelle en économie un emploi multiplicateur. Si vous embauchez un ingénieur chimiste chez Trelleborg à Casablanca, ça justifie la création de laboratoires d'analyse locaux, ça demande des réseaux de maintenance hyper spécialisés et ça pousse même les universités marocaines à adapter leur cursus pour former ces profils.
Donc, ça irradie sur toute l'économie locale. C'est fascinant. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au final pour nous ? On est parti d'une simple annonce, un titre de journal, avec ce taux de chômage à 10,8%, pour réaliser qu'il fallait complètement déconstruire notre façon de lire l'économie.
C'était un peu le but de ce décryptage.
La transition vers l'EMO 2026, bah, elle nous a obligés à faire la différence entre la pression immédiate d'un chômeur qui cherche activement et la détresse beaucoup plus silencieuse de la main-d'œuvre potentielle, notre ami Karim.
Tout à fait.
On a vu que pour répondre à ce quart de la population qui est sous-utilisée, la stratégie de la Banque mondiale, elle demande de transformer des choses qui paraissent basiques, genre des garderies ou des lignes de bus, en véritable moteur de productivité macroéconomique. Et l'usine Trelleborg vient nous montrer à quoi ressemble vraiment cet espoir de monter en gamme sur le terrain.
La leçon principale qu'on peut tirer de toute cette analyse, c'est que les statistiques, elles ne sont jamais neutres. Jamais.
C'est des outils.
Ce sont des constructions humaines conçues pour répondre à des objectifs très précis. Comprendre la mécanique de l'IC18 ou ces quatre couches du carottage du marché du travail, c'est pas juste de l'érudition économique pour faire joli dans un dîner.
Non, c'est sûr.
C'est vraiment l'unique moyen de comprendre pourquoi il y a parfois un tel décalage entre le triomphalisme d'un bulletin d'information à la télé et le ressenti d'une population qui galère à boucler ses fins de mois.
Oui, c'est la capacité à voir tout ce qui a été laissé hors du cadre de la photo, finalement. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée. Un point qui, pour le coup, dépasse même le cadre du Maroc.
Je vous écoute.
On vient de passer ce dossier à voir à quel point ça a été complexe de mettre à jour les outils statistiques en 2026 pour enfin réussir à capter l'économie informelle et les travailleurs des applis numériques. Mais avec la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle générative et l'automatisation avancent aujourd'hui, la définition même de l'emploi risque de voler en éclats d'ici quelques petites années.
C'est une vraie probabilité, oui.
Si l'IA remplace non seulement les tâches répétitives, mais aussi une grande partie de l'analyse, de la conception, comment est-ce qu'on mesurera le travail humain en 2035 ? Est-ce qu'il faudra inventer de tout nouveaux indicateurs, non plus pour savoir si quelqu'un cherche un emploi, mais simplement pour mesurer la pertinence ou l'utilité d'un être humain au milieu des algorithmes ?
C'est le grand défi de demain.
C'est une perspective qui donne un peu le vertige. En tout cas, la prochaine fois qu'un chiffre vous paraît simple et parfait, il est toujours bon de se demander qui a fabriqué l'instrument de mesure, et surtout, qui a été laissé de côté.